Soyez les bienvenus à l'écoute des messages Vie d'Alliance de l'évêque Alexandre Amazou. Si vous êtes béni, contactez-nous au www.abmci.net ou au 2241 75 53. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Je ne sais pas pourquoi Dieu, depuis ce matin, pousse mon esprit sur ce point-là. Focalise mon attention sur ce point. Peut-être qu'il doit y avoir des gens qui ont des difficultés que Dieu veut aider ce matin. Mais pour ceux éventuellement qui ne sont pas à ce niveau, il va falloir saisir les leçons. Alléluia. Dans notre Genèse 1, à partir du verset 26. Oui. Verset 26, lis le verset 26 jusqu'à la fin du verset 26, jusqu'à la fin du chapitre 1. Verset 31. Oui, vas-y.
Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Oui.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est dans la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et
continue.
Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre parties. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila.
Bon, voici 15.
L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce don à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte.
Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Qui avez-vous un certain nombre d'éléments sur ce que j'appelle des devoirs? Devoir d'homme ou devoir de femme. Alléluia. Depuis hier, Dieu parle à mon esprit. Et donc, il faut qu'on en parle ce matin. Voyez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, surtout vous avez la Genèse. La Genèse, c'est le livre du commencement. Donc, très souvent, pour mieux comprendre la Bible, il faut bien comprendre Genèse. Parce que si tu as bien compris Genèse, tu vas comprendre la Bible. Pourquoi? Parce que au commencement, il y a tout. Tout, je vous assure. Tout ce qui doit se faire par la suite est annoncé au commencement. La Bible dit au commencement, Dieu a fait le ciel, la terre, Dieu a créé. Et quand vous regardez les événements qui sont passés à Éden, vous pouvez comprendre la suite de l'histoire et tout ce qui s'est passé. Parce qu'à Genèse, Dieu a dit beaucoup de choses qui ont conditionné toute la Bible. Et quand vous regardez Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, vous pouvez superposer Genèse 1 et 2 à Apocalypse. C'est-à-dire 21, 22. C'est en cela que nous disons souvent que la Bible est comme un cercle. Parce qu'elle commence quelque part, elle fait un rond, et puis elle revient. Parce que ça dit, c'est comme ça, la Bible est un peu comme un truc comme ça. Je ne sais pas comment le faire. C'est-à-dire, c'est comme ça. Ça commence, ça fait un rond, ça revient, et ça repart. C'est comme un cercle. Alléluia. Donc, comprendre Genèse est très, très, très important. Maintenant, je vais partager avec vous quelques aspects parce que je ne veux pas entrer dans les histoires de les arbres plantés au milieu, pourquoi Adam a fait ça, c'est un autre sujet, on va voir ça un autre jour. Mais aujourd'hui, je voulais voir ou partager avec toi les intentions que Dieu avait au départ lorsqu'il a fait l'homme et lorsqu'il a fait la femme. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer pour vivre une vie paisible et pour bien sûr accomplir notre destinée en tant qu'homme ou en tant que femme. Alléluia. Dites amen. Amen. La Bible dit donc, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Lorsqu'on met l'image et la ressemblance, ça donne une seule chose. L'homme est donc la réplique exacte de ce que Dieu est. Parce que tu ne peux pas être à l'image de quelqu'un et à la ressemblance de quelqu'un et ne pas être sa réplique. Donc l'homme est au départ la réplique de ce que Dieu est. Donc, quand on examine donc la Bible, on voit que Dieu, donc, en faisant l'homme, s'est répliqué complètement. Donc, tu n'es pas un être ordinaire, tu es la réplique de ce que Dieu est. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin à côté de toi? Tu es la réplique de ce que Dieu est. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, donc Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, Dieu fait un constat plus tard qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qui va lui faire une aide semblable à lui. Maintenant, regardez ici. Lorsque Dieu a fait l'homme, et donc, de la poussière de la terre, il a soufflé de la rue de l'homme, et l'homme est devenu quoi? Une âme vivante. La Bible dit, Dieu va faire quoi? Placer un jardin, donc créer un environnement, et positionner l'homme dans cet environnement. Et Dieu fait, donc, laisse l'homme, et lui demande maintenant de faire quoi? D'administrer, et de gérer son environnement. Mais il y a deux mots importants que Dieu donc va dire à l'homme. La première chose, c'est une question que je vous pose. Quand l'homme a été créé, quand Dieu a fait l'homme ou s'est répliqué, quand l'homme est venu à la vie, quelle est la première personnalité que l'homme répliqué à vue, c'était qui? C'était qui?
C'est Dieu.
Donc l'homme, dès qu'il a repris vie et il a commencé à voir et à observer, la première personne qu'il a vue, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut dire Dieu?
Oui.
Cette notion est très importante. Je dis numéro 1, Dieu donc s'est répliqué, il a fait l'homme à son image. Donc l'homme est la réplique exacte de ce que Dieu est. Deuxième chose, c'est que lorsque l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, la première personnalité que Dieu a rencontrée, la première personne que Dieu a vue, c'est d'abord, ou que l'homme a vu, c'est d'abord Dieu. Dites Amen.
Amen.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que un homme qui n'a pas, ou qui n'a pas vu Dieu, ou qui ne rencontre pas Dieu avant toute chose, est un homme qui démarre, mais qui démarre très mal. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Amen.
C'est-à-dire, l'homme est sorti de Dieu, et l'homme a été connecté à Dieu ou a vu Dieu. C'est très important parce que quand tu prends les hommes, nous sommes tous la création de Dieu, n'est-ce pas? Mais la Bible nous appelle à faire quoi? À revenir vers Dieu et à nous donner à ce Dieu-là. Dis Amen.
Amen.
Parce que j'ai remarqué une chose. L'un des problèmes que nous avons dans nos églises ou avec nos chrétiens en général, c'est que peu sont ceux qui ont réellement rencontré Dieu. Et un homme qui n'a pas commencé par rencontrer Dieu est un homme qui sera un problème. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Amen.
Dieu fait l'homme, donc il met l'homme dans le jardin. Alléluia.
Amen.
La première personne que l'homme rencontre, c'est
Dieu.
Ensuite, deuxième élément, quand il a rencontré Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il a rencontré Dieu, Dieu fait quoi après? Hein? Dieu lui donne des instructions. Ensuite, Dieu fait quoi? On a lu, il faut que tu saisisses. Ensuite, Dieu fait quoi? Hein? Lui dit maintenant de lui confier un boulot. Parce que n'oubliez pas qu'il fait ce commentaire, on l'a lu, que Dieu avait remarqué qu'il n'y avait pas d'arbus sur la terre parce que l'homme n'avait pas encore commencé à cultiver la terre. Donc Dieu va mettre l'homme dans le jardin pour garder le jardin et cultiver le jardin. Il n'a pas encore endormi l'homme. Donc on va aller par étapes. Après, je vais revenir dessus sur certains points. Ensuite, quand il donne le boulot à l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Oui?
Après avoir donné le boulot à l'homme, il le bénit.
Hein? Il fait passer les animaux. L'homme regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il donne les noms, il gère, il fait tout ce qu'il a fait, il ne touche pas son vis-à-vis. Après cette étape, qu'est-ce qui arrive? Dieu l'endort maintenant. Et Dieu sonne quand et Dieu fait la femme. Donc la femme entre en scène. Après combien d'étapes?
Trois,
quatre étapes. Okay. Donc la première chose que je voulais partager avec vous ce matin, c'est que en tant qu'homme d'abord, je m'adresse aux hommes. Après je vais bénir sur les femmes. Alléluia. Vous savez, souvent, il y a beaucoup d'échecs dans nos relations hommes-femmes ou dans nos foyers parce que les gens ne tiennent pas compte de ce qui s'est passé au départ. Qu'est-ce qui s'est passé au départ avant que la femme devienne? Quand Dieu a fait la création, ensuite, il a fait l'homme de la poussière de la terre, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a d'abord rencontré Dieu. Ça, c'est la première étape. Lorsque l'homme a rencontré Dieu, la deuxième chose, Dieu a positionné l'homme dans un environnement. La troisième chose, Dieu a confié un travail à l'homme. La quatrième chose, Dieu a donné à l'homme d'administrer, bien sûr, son environnement. Ensuite est venue la femme. Est-ce qu'on peut dire avec très fort? Parce que le problème qu'on rencontre souvent, et ça, je m'adresse maintenant aux sœurs. Chères sœurs, regardez toutes ces étapes que je viens de vous citer. C'est très important. Est-ce qu'on peut dire amen, les sœurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une sœur qui doit faire le choix d'un homme avec qui doit vivre doit tenir compte de toutes ces étapes-là. Un homme qui n'a pas rencontré Dieu ne mérite pas de le rencontrer. C'est pour que Adam voit Ève, il a d'abord vu Dieu. Maintenant, si l'homme qui va te prendre te voit d'abord avant de voir Dieu, c'est ça ton problème. Parce que beaucoup de gens, il y a beaucoup de calamités. Après, je vous parle, parce que je vous dis, il y a un pasteur qui a fait un témoignage qui m'a touché. Il dit, je me suis marié. À un moment donné, j'ai eu du succès dans le. Mais, c'est plus tard que j'ai réalisé que je m'étais mal marié. Parce que ça m'a rattrapé. Je vous dis, dans la vie, il n'y a pas d'étapes qu'on brûle. Si tu brûles les étapes, ça te rattrape toujours. Et après, il a fait ce commentaire-là pour dire, il dit, tu sais, je suis arrivé à un point où ma femme et moi, on était devenus, on faisait la bagarre. On était devenus chien et chat. Il dit, je connais ma part de responsabilité parce que moi, en tant que homme de Dieu, j'avais certes du succès dans peut-être le travail que je faisais, mais j'avais échoué à la maison. Il dit, j'ai remarqué une chose, c'est que ton degré de prière ou ton degré de longévité, c'est-à-dire ton degré de spiritualité, n'enlève pas forcément certaines choses que tu as dans ta vie et que tu grandis avec. Il dit, j'avais la gloire, mais j'avais des tâches. J'avais les honneurs, mais j'avais des tâches. Et il dit, ça m'a suivi, et ça m'a bousillé. Je t'assure, il m'a fait pitié. Donc, une sœur qui veut choisir un homme doit s'assurer d'une chose. Parce que, je vous dis, moi je suis honnête avec vous, je suis votre pasteur. Et si Dieu vous envoie auprès de moi, j'ai le devoir de comment on appelle ça, d'honnêteté et de vérité vis-à-vis. Amen.
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 Beaucoup de gens, souvent, oui, pasteur, il est juste incroyant. S'il est comme ça, il n'est pas hostile à l'évangile. Je te dis aujourd'hui, si l'homme que tu choisis ne rencontre pas Dieu d'abord, il y a un problème. Tu as brûlé les étapes. Numéro 2, quand Adam a vu Dieu, Dieu lui a créé un espace. Et après l'espace, Dieu lui a donné un boulot. Dis
amen.
Donc c'est un homme qui avait déjà de la responsabilité avant de rencontrer la femme. Parce qu'un homme qui n'a pas de responsabilité avant de rencontrer une femme ne saura pas la gérer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chefs dans les couples. Voilà pourquoi les couples chrétiens, il y a beaucoup de bagarres. Voilà pourquoi les couples chrétiens, ça chauffe. Voilà pourquoi ça ne va pas. Mais on ne peut pas rester là et regarder l'église aller à la perdition. Parce qu'une église forte est une église où les couples sont forts. Une église
églises où les couples sont divisés, où monsieur et madame ne se parlent pas, où ils se suent, ils se maudissent. Il dit, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de parler sur ça en matière. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Je connais le Seigneur. Si tu as ouvert ton cœur, ça ne peut pas être normal. Donc l'homme a eu de la responsabilité d'abord. Il a d'abord eu son territoire, il a d'abord eu du boulot, il devait garder son jardin, cultiver son jardin. Il avait de la responsabilité d'abord. Ensuite, on a envoyé des animaux vers lui pour nommer. C'est-à-dire, c'est une façon de gestion. C'est-à-dire, l'homme devait administrer, devait nommer, donc devait déjà exercer une responsabilité. Dans son environnement. Et c'est après tout ça, parce que je dis, un homme qui n'a pas de responsabilité, si tu entres dans sa vie, il ne saura pas t'apprécier. Donc l'homme a d'abord la responsabilité. Il a d'abord un travail. C'est pourquoi, moi je vous dis, tu es un homme, tu ne fais rien, il faut te méfier. Lisez bien Genèse. Qu'est-ce que Dieu a dit avant même d'arriver? Il a dit, il dit que la terre n'a pas encore produit parce que l'homme n'a pas encore commencé à cultiver. Ça veut dire quoi? C'est fort. Dieu a même dit que l'homme, ou le fait d'être cultivateur, le fait de travailler, est-ce qui va donner de la prospérité à la terre? Donc, le fait de travailler là est, si on peut le dire, l'une des premières responsabilités qu'un homme a, c'est de travailler pour apporter de la prospérité à la terre. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi. Amen.
Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Le travail, est-ce qu'on peut dire pour
le travail?
Quand on parle de travail, c'est à tous les niveaux. Tu es banquier, c'est ton boulot. Tu es ça, c'est ton boulot. Mais à tous les niveaux, il faut que si tu es un homme dans cette salle, que tes deux mains trouvent quelque chose à faire. Sinon, tu n'es pas un homme. Parce que je reviens sur la lettre. Je te montre le verset.
Verset 5.
Oui, vas-y.
Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol.
Et, conjonction de coordination, il n'y avait point d'homme pour cultiver encore le sol. Donc, en fait, il lit le fait que la terre n'avait pas encore donné de sa verdure et ceci parce que il n'y avait personne encore pour cultiver, pour travailler. Tout le monde dit
le travail.
Tu es une sœur dans cette église. Ne marie pas ou ne va pas vers un homme qui n'a pas de responsabilité. Un homme que tu n'as pas trouvé dans une responsabilité est un homme qui ne saura pas t'apprécier. L'homme a d'abord eu de la responsabilité avant de voir être. L'homme a d'abord eu du boulot. Tu m'as rien paresseux, tu es une bonne.
Amen.
Tout le monde dit travail.
Travail.
Travail. Ensuite, la Bible dit quoi? Lorsque l'homme a eu du boulot, l'homme a administré, il a eu du boulot, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'il a nommé les animaux. La Bible dit ne trouva pas son vis-à-vis et Dieu va l'endormir. Ça veut dire Dieu va l'endormir dans un sommeil. Et Dieu a sorti une côte. Vous savez, la côte se trouve où? nos corps se trouvent sous nos bras. Il sonne comme et il fait quoi? Il fait la femme. Et quand il fait la femme se réveille dans les mains de Dieu d'abord. Donc la première personne qu'elle voit, c'est qui? Vous savez, j'ai compris une chose. Dieu, il n'aime pas être second. Il veut toujours premier. Dans tout, il veut être le premier. C'est quand tu prends la Bible, finalement, il est au commencement de tout. Une affaire où il n'est pas au commencement, mais ça ne marche jamais. Cher frère, il ne faut pas aller chercher femme. Il n'a pas encore été. Tu l'as vu le diable avant. Tu es un homme mort. Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Elle s'est réveillée, elle est venue, et quand Adam a vu, il dit, voici celle qui est onze chers, ma chère, on l'appellera femme. C'est lui qui a donné le nom, femme. Il dit, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de moi. Amen.
Amen.
Maintenant, regardez. La femme a été faite de la côte de l'homme. Vous savez avec moi que la côte, je dis, la côte, ou notre côte, les côtes sont l'un de nos parties les plus sensibles. C'est pourquoi nos côtes sont sous nos bras. Pour une raison, pour qu'on puisse protéger nos côtes. C'est pourquoi tout être humain ou tout homme qui utilise sa force contre sa femme est stupide. Parce que la force, c'est pour protéger sa femme. La force que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour frapper la femme. Donc, pour l'agiter, pour la martyriser, mais c'est pour la protéger. Les bras protègent. Si je te fais comme ça, tu vas penser à faire comme ça, parce que tu ne veux pas qu'on te tape là. Donc, cette femme qui représente la force que Dieu t'a donnée, que Dieu a sorti et que Dieu a mis auprès de toi, les bras que Dieu t'a donné, qui représentent ta force, ta vigueur. Alléluia. Ce n'est pas pour rabaisser cette femme ou pour détruire sa vie. Parce qu'on voit dans certains couples, monsieur et madame sont des concurrents. Monsieur parle 1, madame parle 2. Madame parle 3, monsieur parle 4. C'est-à-dire il n'y a pas de soumission, c'est de la concurrence pure dans la maison. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a tellement de crises dans nos églises. Pourquoi? Parce que monsieur utilise la force que Dieu lui a donnée pour protéger sa femme, pour aller contre elle. Madame aussi, bien sûr, les moyens de bord, tout ce qu'elle trouve, c'est la télécommande. Elle jette sur monsieur, c'est les chaussures. Elle jette sur monsieur. Et toi, dans la maison, c'est la cacophonie. Vous devez honorer et respecter les femmes. Est-ce qu'on peut dire amen les hommes?
Amen.
Vous devez honorer et respecter les femmes. Et je le dis souvent et je le répète. Quand il y a crise dans une maison, le premier responsable, ce n'est pas la femme ou la première. Non! Les gens se trompent. Les gens se trompent. Il y a quelqu'un derrière parce que je me vois qu'il y a des problèmes en ce moment avec son épouse. Je n'ai pas allé pendant au moins 4 heures, 5 heures. On parle jusqu'à 1 heure du matin. Je dis, mais j'essaie de régler. Mais je dis, mais pasteur, tu es le premier coupable. Ma femme a fait ça, ma femme. Et je dis, mais écoutez, je vous dis une chose. C'est alors que Dieu a donné d'abord la responsabilité avant la femme. Dieu a parlé avec l'homme. La femme était un homme. Alléluia.
Amen.
Si dans une maison, madame n'écoute plus monsieur, tu peux argumenter pour dire qu'elle n'est pas levée. C'est des histoires. Le monsieur est le premier responsable. Si dans une maison, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de confiance mutuelle entre l'homme et la femme, Le monsieur est le premier responsable. Si un foyer se casse, le premier responsable, c'est monsieur. S'il y a divorce, on peut dire ce qu'on pense, le premier responsable, c'est monsieur. Si madame, à un moment donné, bien sûr, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, a commis des erreurs dehors, le premier responsable, c'est monsieur. A été donné à l'homme. Dieu a dit à Adam, quand il a donné l'espace, chaque être humain à son espace, Dieu a dit à Adam, garde le jardin et cultive le jardin. Cultiver, c'est travailler, garder par de notions d'autorité. Je t'ai donné l'autorité, c'est toi qui as la responsabilité, garde ton jardin. Lorsque le serpent est venu et puis il est entré dans le jardin, ce n'était pas à Ève de prier à la porte qui entre, qui n'entre pas. Celui qui a le mandat pour le faire, c'est l'homme. C'est à lui, on a dit, garde bien ton jardin. On n'a pas dit ça à la femme. Tu peux déléguer autorité à ta femme pour faire certaines choses, ok. Mais le premier responsable, c'est pourquoi lorsque Dieu est arrivé le soir, qui l'a appelé? Parce que beaucoup, il y a beaucoup de problèmes parce que les gens disent ma femme elle est comme ça, ma femme elle est comme ça, ma femme elle est comme ça, ma femme elle est comme ça. Tu sais, si vous ne voulez pas respecter la Bible, dans tous les cas, cette Bible là, c'est ce qui va juger le monde. Donc je dis, dès maintenant, il faut savoir où est ta part de responsabilité pour ne pas commettre des erreurs et puis demain, le Seigneur va t'attaquer pour te dire, ce n'est pas comme ça que les choses devaient se faire. Mieux vaut le savoir maintenant. C'est facile de dire, ma femme a fait, ma femme a fait, ma femme a fait. Mais très souvent, les femmes, elles réagissent proportionnellement à ce que les hommes font. Amen. De Jésus. Écoutez-moi bien. Et si l'Église ne revient pas à l'enseignement biblique de la gestion d'un foyer, alors on va faire les choses comme le monde là, ça ne marchera pas. Je vous dis que ça ne marchera pas. Il y a un seul responsable, c'est l'homme. Et Dieu a demandé, attends, où es-tu? Parce qu'ils avaient une position de rendez-vous avec Dieu. Quand Dieu est venu à cette position, l'homme n'était plus là. Adam a automatiquement accusé la femme. Parce que l'homme a cette tendance-là. Depuis notre grand-père Adam, c'est comme ça les hommes se comportent. Ils ont accusé tout de suite la femme. Madame n'a pas fait ça. Madame n'a pas fait ça. C'est facile de le dire. C'est pourquoi Jésus a dit que lui, il a aimé l'église. Et il s'est acquis cette église par son sang. Parce que n'oubliez pas que l'église ici, l'église est le symbole de la femme, comme Christ est le symbole de l'homme. Il dit qu'il a aimé l'église, il a racheté l'église et il va présenter l'église au dernier jour au Père sans tâche ni ride. Et l'homme a obligation de veiller sur sa maison et de faire en sorte que la femme que Dieu lui a donnée là, qu'au dernier jour, quand Dieu va lui demander des comptes, qu'il puisse présenter cette femme là sans tâche ni ride. Je vous assure, l'amour, là, je vous dis, l'amour, ce n'est pas des sensations. Beaucoup de gens se trompent. L'amour n'est pas des sensations. L'amour, on dit non, je sens les trucs. Il y a un courant qui passe dans ma tête. Ça, c'est du jeu et ça, c'est amusement. Tu n'es pas encore entré dans l'amour. Le vrai amour, là, c'est un choix. Directement choix. On choisit et plus on fait avec. C'est ça l'amour. Je te dis, si tu attends avoir des sensations, vois à chaque fois, madame, et puis tes cheveux se dressent. tes cheveux vont se dresser. À un moment donné, tu fais un choix et puis tu as su. C'est ça. Mais comme les gens ne comprennent pas ça, alors leur soi-disant amour, en guillemets, est basé sur quoi? Sur tout ce qui est visuel. Ma femme est belle, ma femme s'habille bien, ma femme fait ça pour moi, ma femme est comme ça, elle me parle comme ça, mais le jour où elle ne me parle plus comme ça, le problème commence. Pourquoi? Parce que les gens ont catalogué l'amour dans selon le monde. Merci. Selon le monde. Super. Selon le monde. Nous sommes l'Église. Et Jésus, comment il nous aime? La Bible dit, tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jésus a accepté de mourir et il nous a choisis comme ça. On n'est pas bon, il y a des morts s'ils mentent. Avant d'entrer, s'ils ont menti. Mais Jésus les aime quand même. Il y a des pécheurs, Jésus est avec eux quand même. C'est un choix. Je dis que l'amour est un choix. Est-ce qu'on peut dire choix? Oui, d'abord Dieu t'a choisi comme tu es et puis t'aimes là. C'est comme ça on dit, j'aime ma femme, un point c'est tout. Elle a les yeux comme ça, je l'aime. Elle a les trucs comme ça, je l'aime. Point. Alléluia. Qu'importe. Et quand on commence à arriver à cette compréhension de la vie, alors l'éventualité des histoires du jeu de divorcer là, ça disparaît. Tu vas le divorcer pourquoi? Ou bien faire la divorcer? Quelqu'un qui parle comme ça, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Pourquoi tu as le divorce? Dis-moi. Tu as le divorce pour moi. C'est un choix. Tu as choisi. Et tu sais, le bonheur est relatif. Hein? Tant que tu n'es pas arrivé à ce choix pour dire, écoutez, mon affaire là, j'ai choisi, c'est ce que j'aime. Et puis c'est tout. Frère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ta femme va souffrir. Parce que tant qu'il n'y a pas le choix, c'est le choix qu'on fait de quelque chose qui nous libère. Des autres choses. Parce que tant qu'on n'a pas choisi quelque chose, on est toujours tenté de regarder à mille choses pour dire, je prends quoi? Je prends pas quoi? Je prends quoi? Aujourd'hui ça brille ici, non, demain ça brille ici. Mais quand on a choisi quelque chose, nos yeux se ferment sur les autres. Choisi, il souffre. Donc, dès qu'il y a quelque chose, il se dit, j'ai dû me tromper. Frère, quand on a choisi, on discute même plus. Tu vois, il y a un niveau où discussion de c'est mon mari, il a fait sortir de ça. Alléluia. L'amour est un choix. Qui a confié à côté de l'amour et des choix? Amen. C'est bon pour tout le monde?
Amen.
Donc la responsabilité que les hommes ont est une responsabilité trop grande. Parce qu'il est très facile de mettre les problèmes sur la femme pour dire oui, la femme en fait. Je vous dis, moi j'ai plus le temps d'étudier l'affaire de la sérieuse. Si vous jouez avec votre responsabilité, Dieu va vous juger. C'est pourquoi on se marie, on se marie, on réfléchit. Quand tu as marié une femme, elle est sous ton autorité. Les hommes ne savent pas. J'ai dit, voilà l'une des raisons pour laquelle les hommes meurent vite par rapport aux femmes. L'expérience de vie des hommes est réduite par rapport à celle des femmes. Parce que les hommes jouent avec cette notion de femme. Jésus, si vous voulez bien mieux comprendre la relation mystérieuse qui existe dans le couple, étudiez la relation entre Christ et l'Église. Voyez comment Christ s'est sacrifié pour l'Église, comment il s'est donné pour l'Église et comment il travaille aujourd'hui pour que cette Église, quel que soit ce qu'elle est, arrive à destination. Tu vas comprendre la responsabilité que tu as en tant que homme dans ta maison. Et pour une femme qui veut saisir sa responsabilité dans le couple, regarde la responsabilité de l'Église face à Christ. attitude, ce que tu as comme responsabilité. Mais le grand responsable dans cette affaire-là, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pourquoi il n'y a pas d'élection possible. Ça ne va pas dans ta maison, ça va être, tu ne vas pas bien. Si toi aussi tu veux, commence à changer. Commence à entrer quand il faut entrer à la maison. À saluer ta femme, à être gentil avec ta femme, à lui faire des cadeaux, à faire sortir ta femme. On le fait sortir les camarades dehors. Tu vas voir ce qui va se passer. Il n'est pas d'accord. Je dis l'église doit comprendre ce qui est bon. Et nous, notre rôle, c'est de vous dire ce qui est bon. Il y a des gens qui sont prêts à tout faire dehors, mais jamais sur les femmes. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu vas donner, dépenser 5 millions d'euros, 2 millions, tu ne réfléchis même pas. Quand ta femme te demande 500 000 francs pour un commerce, tu es irrité. Dans cette salle, même si tu n'es pas marié, il va falloir comprendre ce que je suis en train de te dire. Il va falloir comprendre ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Pour chaque homme dans cette salle, fais sa part. Les femmes ne sont pas compliquées. Alléluia. Une femme peut aimer. Vous savez, les femmes aiment facilement. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu le problème de dire à la femme. Femme, ou bien de dire à l'homme, homme aime ta femme, femme va subir. Dieu n'a pas eu besoin de dire à la femme, femme aime ton mari, parce que les femmes aiment. Et les femmes font des sacrifices. On connaît les femmes ici, si tu vois les hommes qu'elles aiment là, vraiment, il n'y a pas moyen de les aimer. Mais elles les aiment quand même. Nous, est-ce qu'on dit la vérité, oui ou non? Il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'a pas sa pointure de femme. C'est-à-dire que tu es comme un homme, même si tu es fou comme ça. Américain, là, ça fait. Vous connaissez le chanteur américain là? La femme. C'est jusqu'à où tu peux comprendre où jusqu'à où la femme peut partir. Mais les hommes, dis quel homme qui est prêt. C'est-à-dire, dès que la femme là, elle peut déformer, elle veut. Mais les hommes, les femmes, c'est différent. Et même les femmes n'ont pas de problème. Moi j'ai compris, et vous savez, si vous n'arrivez pas à cette compréhension, la femme détruit ton foyer. Les femmes n'ont pas la même force que vous. Elles peuvent parler, mais derrière tout ce babadage là, elle est faible. C'est une femme faible. Et quand toi tu fonces, parce que tu penses qu'elle veut te concurrencer, et tu lui parles, tu lui dis des trucs, à un moment donné, tu brises cette femme, tu détruis cette femme, et plusieurs hommes ont détruit les femmes, ont cassé la vie de ces femmes. Elles ont perdu confiance en elles. Elles n'ont même plus la capacité de se lever. Mais je déclare ce matin que le Dieu qui t'a fait, que le nom de Jésus vous aime. Alléluia. Alléluia. Chers hommes, le temps de faire notre meilleur du pas est arrivé. Alléluia. On a tout fait pour les femmes. C'est longtemps. La responsabilité. Et je vous dis, et je le dis toujours, et je le répète ce matin, que tu sois une femme mariée ou pas mariée, là où les gens ne sont pas prêts à te dire quelle est ta valeur, pour plus jamais les écouter. Un homme qui te rabaisse sans cesse, qui te parle mal sans cesse, qui est tout le temps en train de te casser, qui est tout le temps en train d'arrêter dans ton élan, il est un ennemi potentiel. C'est ça la peine. Attends, ennemi c'est quoi? Dites-moi ennemi c'est quoi? Ennemi c'est quoi? C'est ça ennemi? Il y a des maris ennemis? ne sera jamais rien sans toi. On va voir où tu vas arriver. Tu parles. À chaque fois que tu parles à ta femme, au lieu de l'aider à monter, tu l'écrases. Mais ce que tu ne sais pas, ce que les hommes ne savent pas, que je leur dis ce matin, c'est que en rabaissant leur femme, ils se rabaissent. En détruisant la vie de ta femme, tu te détruis. Si tu veux, essaie. Tu vas voir qu'un homme qui a du succès jusqu'à un certain niveau, moi je ne parle pas de païens, les païens ne respectent aucune loi, mais ça ne l'attend pas toujours. Un véritable enfant de Dieu qui a du succès jusqu'à un certain niveau dans la vie et qui est respecté est un homme de Dieu qui a su positionner sa femme. Ou est un homme qui veut, quelle que soit la carrière, que ce soit politique, administrative, quelle que soit la carrière que tu vises, joue avec ta femme, prise-la, casse-la, tu vas voir si tu vas atteindre la position que Dieu a décidé de te donner. Tu ne l'atteindras jamais aujourd'hui, tu ne l'atteindras jamais demain. Je te dis la vérité. À moins que tu deviennes un païen, tu te comportes comme tu veux, tu entres dans la ville, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a appelé de toi, alléluia. Attendez, et comment vous pouvez accepter? Écoutez-moi, il faut qu'on se dise la vérité ce matin. Comment tu peux accepter que tu permets à certaines personnes de parler mal de ta femme? Il y a des hommes, leurs amis critiquent leurs femmes, leurs camarades femmes. Je dis, toute personne qui travaille contre ta femme est un ami. Toute personne qui te parle et puis qui te dit, ta femme, en mère, si tu fais quoi? Même si elle marche sur ses genoux. Personne n'a le droit de te dire ta femme dans le oui, elle-même, on ne comprend pas. C'est ta responsabilité de prendre ta femme là où elle est et puis de l'amener là où tu penses que tu es arrivé. Si tu dis que s'il n'y a pas d'impossibilité, il n'y a pas d'impossibilité. Moi, je connais des gens, leur femme était illettrée. Mais si tu vois ce qu'ils ont fait de la femme illettrée là aujourd'hui, cette femme n'a plus pour leur mari là, tous les jours. Il y a des femmes qui pensent à leur mari, c'est la même chose. Mais attends, tu penses que tu vas arriver où? À chaque fois que ta femme pense à toi, c'est la même chose qui pleure. Il n'y a pas de joie. Parce que tu ne fais rien pour lui apporter le bonheur. Je vous dis, vous battez, vous travaillez dans la minesse, pourquoi? Attends, je vous donne, vous battez là, c'est pourquoi? C'est pour que d'autres gens viennent manger. D'abord que vous, quand Dieu bénit, bénit d'abord la personne. Il dit, toi et ta maison seront bénis, et puis le reste là, les autres vont prendre. C'est pourquoi? Mais n'oublie pas, toujours que Dieu te dit, oh, tu as marié cette femme là, si tu es arrivé là où tu es, va croire que ça coûte de toi seul. Parce que tout ce que Dieu a fait à Cana, c'est pour une raison. Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait venir. Tu as préparé le fait. Et quand elle est venue là, depuis que tu es avec elle aujourd'hui, tu as gravi des échelons. Aujourd'hui, tu trouves qu'elle n'est rien, ou bien qu'elle peut rien, tu te trompes. C'est quoi, voir des hommes dans la société, ils ont atteint un certain niveau. Mais souvent, quand tu vois les femmes, tu dis, il ne faut pas dire, ça, c'est des yeux. Il sait pourquoi il a fait. Parce qu'il y a une nouvelle génération de femmes dehors là. Je vous dis, elles sont juste bonnes ou dehors. Elles ne sont pas bonnes pour la maison. Ou bonnes pour construire la destinée. Et c'est là où les hommes se trompent. Il ne faut pas te tromper ce matin. Tu es un homme, il faut réfléchir. Si Dieu t'a donné une femme, respecte-la. Travaille pour elle. Investis en elle. Investis dans tes enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que ceux-là, ils ont toute la responsabilité. Et quand ils ont la joie, ils ont le bonheur, Dieu te bénit. Mais quand ils pleurent et puis ils sont assis quelque part, ils pleurent, Dieu ne peut pas te bénir. Moi, j'ai horreur des gens qui n'entretiennent pas leur famille. un homme doit être capable de se plier en deux pour sa famille. Adam avait la responsabilité. Ève est également la responsabilité, dit
Amen.
Dit Amen. La Bible dit à Ève, il dit quoi? Il dit, je te ferai quoi? Une. La femme est une aide. La femme est une aide. Si la femme est une aide, ça veut dire quoi? Seul, tu ne peux pas. Aucun homme ne peut seul ici. Aucun homme ne peut seul. Tu as besoin de ta femme. Tu as besoin de ton mari. Elle est une concurrente. Mais je connais les femmes. C'est souvent nous les hommes qui leur donnons cette position de concurrente. Sinon, la femme, elle est là pour t'aider à devenir, pour accomplir ta mission, pour réaliser tes rêves. Alléluia.
Amen.
Mais n'expose pas ta femme. Quand Dieu est venu, Adam a exposé Ève. Adam a poussé Ève et puis s'est caché derrière Ève. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Quel que soit ce qui arrive dans la maison, si les gens viennent juger, ne viens pas dire oui, ma femme là, c'est elle, ma femme là. C'est elle, ma femme, et puis tu mets tout sur elle. Même si elle a des faiblesses, même si elle a des défauts, tu es le chef. Et un chef couvre. Depuis quand Jésus vous a livré, la Bible dit qu'il est notre avocat. Mais pourquoi il est notre avocat? Pour nous défendre. Pour dire non, c'est vrai qu'il a péché, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Parce que j'ai fait une œuvre qui couvre sa vie. C'est ça. Jésus nous couvre par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Et un homme qui n'est pas prêt à couvrir sa femme. Un homme qui n'est pas prêt à déployer ses ailes pour couvrir et couvrir la nullité de sa femme, n'est pas digne. Voilà pourquoi, je vous dis, voilà pourquoi certaines sœurs dans les foyers se sont révélées. Parce qu'elles n'ont plus de couverture. Elles sont toujours livrées, elles sont toujours gênées. Et à un moment donné, elles se renferment et puis elles disent bon. Comme il n'est pas capable de faire son travail, terminé. Elle prend une position et désormais ça devient quoi? Tu dis elle dit Dieu, elle s'en fout de toi. Tu vis ta vie, elle vit sa vie. Il y a des foyers même, c'est la cohabitation. Non, non. C'est la cohabitation, ça dit monsieur vit sa vie, madame vit sa vie. C'est deux styles différents, c'est deux façons de voir différents. Ils ne font aucun effort pour rapprocher les positions. Ils ont leur vie séparée. Ils sont monsieur et madame sur papier. Mais si l'église veut aller loin, l'église ne peut pas continuer dans ça. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort?
Amen.
Est-ce qu'on peut dire Amen très fort?
Amen.
C'est pourquoi avant, frères et sœurs, dans plein de temps, il faut réfléchir. Vous qui n'êtes pas mariés, vous avez un privilège énorme. Et si vous êtes des hommes, vous êtes là ce matin, s'il vous plaît, il faut vous repentir et prendre votre responsabilité. Quelque chose qui est arrivé dans le passé, c'est ta faute. Tu n'as pas su gérer, tu n'as pas su administrer ta maison, c'est tout. Tu sais administrer. Quand tu sais gérer ta maison, il n'y a rien que ta femme ne peut pas t'accomplir. Elle peut tout t'apporter. Et d'ailleurs, même si elle ne peut pas, aide-la. Aide-la. Parce que les femmes sont à 80% très émotionnelles. Les femmes sont très, très émotionnelles. Mais bien sûr, quand tu sais que ta femme est très émotionnelle, il ne faut pas prendre des décisions qu'elle. Souvent, elle prend des décisions, il ne faut pas la laisser dans ses décisions. Parce que, il y a des femmes, par exemple, vous faites pas là, tout de suite. Vous étiez prêt à aller quelque part. Vous n'êtes pas là, là. Tu reviens, dis-moi, on est prêt. Elle dit, moi. Mais quand t'as dit, elle va plus là. Ça là, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas partir. Elle opère un certain niveau que tu vas comprendre. Il faut comprendre qu'elle opère un certain niveau. Et donc, au lieu de la laisser là, et puis dire oui, d'accord, tu ne vas pas, non, ok, il n'y a pas de problème, ce n'est pas bon. Aide-la. Aide-la à sortir de ce niveau-là pour entrer dans d'autres règles. Frère et soeur, parce qu'elle a pris une décision parce qu'elle n'est pas contente. Donc c'est une décision qui est basée sur les émotions. Elle n'est pas contente et elles sont comme ça. Qu'elles ne sont pas contentes, elles peuvent décider. Même si c'est un leur bonheur dedans, elle dit papa. Mais toi, tu peux changer ça si tu aimes ta femme. Si tu aimes ta femme. Tu lèves, tu peux changer ça. Alléluia. Alléluia. Donc il faut apprendre à comprendre nos femmes et à ne pas leur tenir rigueur pour beaucoup de choses. Et je te dis que si tu es un homme, tu arrives à ce point-là où tu acceptes ta femme telle qu'elle est, sans vraiment lui tenir rigueur pour les trucs, et dire je ne fais pas, elle est non, laisse le temps et puis va dire excuse-moi. Hein? Je sais que tu es ma chérie. Tout tu ne vas me dire, tu vois comme ça. Juste savoir. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous on se bloque parce qu'on est des chrétiens. Parce que les gens pensent que quand on devient chrétien, on devient villageois. Ils sont très villageois. Ils disent après, on dit au restaurant, il ne peut pas aller au restaurant. Alors aussi, il est dur comme ça. Il dit, bien joué, bien joué, bien joué.
Je voulais vous encourager ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Tu sais, ça ne fait rien, je t'assure. Tu penses que ta femme, au contraire, c'est ce que ta femme attend. Que tu t'humilies. Que tu t'humilies à moi. Que tu lui fasses confiance. Et que tu lui dises c'est bien chaud. Que tu l'écoutes. Ça va changer le foyer. Est-ce qu'on peut dire avec
toi?
Et il faut que le foyer des chrétiens change. Mais tout dépend de l'homme. Je dis, je répète encore ce matin, tout dépend de l'homme. Si l'homme décide de s'humilier, la maison va aller très bien. Et bien, je le dis, si je ne sais pas toujours qu'il faut parler. La femme peut parler parce qu'elle n'est pas contente. Laisse-la. Qu'elle va finir, qu'elle va se calmer, tu viens, tu lui prends des excuses. Et puis la vie continue, tu ne deviendras pas un sous-homme. Parce que les gens pensent qu'ils sont le chef. Le mot chef, faut bien étudier le mot chef. Un chef, Jésus a dit que celui qui est le chef ou le patron, qui soit le serviteur. Un chef est un serviteur. Un chef est quelqu'un qui est prêt à se rabaisser. Un chef est quelqu'un qui est prêt à écouter. Un chef est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour. Ça veut dire quoi? Si ma femme, parce qu'elle a décidé de ne plus faire ça, alors que je sais que c'est bon pour elle, si c'est moi qui suis la cause, Je suis obligé de tout faire, même à me rabaisser, même à demander pardon à genoux pour que ma femme puisse le faire parce que c'est beau pour elle. C'est ça le chef. Mais on ne regarde pas la femme et on ne lui dit pas ce qui passe ton problème, dans tous les cas, je m'en fous. On ne le dit pas. Alléluia. Et si un homme fait sa part, vous allez voir que la soumission va venir. Parce que souvent, on parle trop de soumission de la femme. Le vrai problème, c'est que les hommes ne jouent pas leur rôle. Vous allez voir que c'est une conséquence. Quand un homme joue son rôle, ça suit. Ça suit. Ne dis plus de mauvaises paroles à ta femme. Dis-lui des paroles qui vont le lever. Elle peut avoir des défauts, et puis après, les aide-la, mais doucement, à relever son niveau. Mais ne l'écrase pas dans ses défauts, ne l'accuse pas tous les jours. Tu es comme ça. Ce n'est pas ce qui va changer. Quand elle sera endurcie, à un moment donné, va changer. Et tu sais, quand une femme perd confiance dans l'homme qui est devant elle, c'est fini. Elle cherche la confiance ailleurs. C'est-à-dire que tu deviens gigolo quand ta femme perd confiance. Donc, ne croyez pas que c'est l'argent. Vous savez, les femmes, elles peuvent cracher sur ton argent. C'est pas le problème de la femme, c'est pas l'argent. J'ai l'argent. Et puis après, si elle ne fait plus confiance, tu as perdu ta valeur d'or dans la maison.
Amen.
Une femme qui n'a pas confiance au mari, qui est obligée d'aller, quand son mari lui parle, d'aller contrebalancer l'information. transformation pour être sûr qu'il faut qu'elle fasse.
Oh non, tu as échoué.
Ça doit t'inquiéter. Ça doit t'inquiéter que tu dis que tu as ta femme bien fait pas être bon. Je vais te demander d'abord à Paul pour voir. Ça veut dire que tu n'as pas le feu d'enfant. Sinon, une femme, elle peut croire en son mari aveuglement. Même quand le gars va dans le mur, quand le mari fait ce qu'il fait, elle suit son mari. Elle suit son mari. Ce matin, je vais juste vous appeler à une prise de conscience. On ne peut pas laisser l'église de Jésus-Christ aller à la perdition. En voyant nos foyers mélanger nos femmes et nos maris en balade dans des concurrences, dans des va-et-vient, dans des coups de pied, alléluia, il faut, et je vous dis une chose, ne permettez jamais à personne d'entrer au milieu de toi et ta femme. Ça veut dire quoi? Ta femme, c'est ta femme. Quelqu'un ne peut entrer au milieu et puis se mettre à ses amis et parler mal de ta femme devant toi. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un parle mal de ta femme devant toi, la personne ne mérite plus ta confiance, il faut libérer la personne. À moins que toi, même ta femme, tu as des problèmes. Je voulais vous encourager ce matin. Est-ce qu'il y a des gens là ce matin? Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin? Je veux les hommes responsables. Chers sœurs, vous avez compris tout ce qu'on a dit? La responsabilité. Un homme qui n'est pas capable de s'assumer ne pourra pas vous assumer. Réfléchissez 5 fois. Les hommes qui se laissent influencer par leur famille. Ta femme là. Oh, elle est trop dure, hein. Celle-là. Elle va te dominer, elle te domine. Voilà le problème. Si vous avez envie de vous dominer dans la maison, voilà le problème. Ça fait qu'il y a des hommes inconscients qui captent ces informations et puis qui se dénaturent. Tu sais, il ne faut pas te dénaturer. Si tu aimes ta femme, tu aimes laver ses supports, voilà le problème. Tant qu'il y a la paix dans ta maison, c'est pas mieux. Tu vas écouter les gens dehors. Les gens qui ont échoué dans leur vie. Quel conseil pour te donner? Faut pas écouter. La femme n'a qu'à te dominer, c'est pas leur problème. Aime ta femme telle qu'elle est. Avec sa personnalité. Est-ce qu'on peut dire amen? Si tu es ici dans cette salle, tu es allé faire des choix contre nature selon la Bible. Faut te ressaisir. Si tu es allé et tu as pris des gens et tu es sur le point de faire certaines choses pour glorifier Dieu, je te dis, un morceau de bois dans l'eau, il demeure un morceau de bois. Fais attention aux gens qui n'ont pas rencontré Dieu. Aux gens qui ne connaissent pas Dieu, ils risquent de vous pourrir la vie. Méfiez-vous, chers sœurs. Ce n'est pas une affaire de dire gentil. C'est une affaire. Est-ce qu'il connaît Jésus? Est-ce qu'il est affranchi? Est-ce qu'il a rencontré Dieu d'abord? Est-ce que son cœur est circoncis? Ne tolérez pas certaines choses dans la vie de vos époux ou de vos épouses. Sinon, après, ce qu'on tolère, on finit par consentir et un jour à le faire. Ton mari a fait des choses qui ne sont pas bonnes, dis-lui. Si tu continues, je vais dire au pasteur. Ne pas rester là parce que c'est ton mari qui fait des trucs qui ne sont pas bons. Demain, c'est contre toi, ça va aller. Est-ce qu'on est content ce matin?
Amen.
Tu es là, tu n'es pas marié. Dieu va te donner un mari. Tu es marié, ton foyer ne va pas bien. Dieu va restaurer ton foyer.
Amen.
Maurice Bleu et son épouse, ils ont près de 59 ans de mariage. Non, 60 ans de mariage. Ils s'aiment comme s'ils s'étaient mariés hier. Et quand tu les regardes, tu te demandes comment ils ont fait pour passer tout ce temps, passer les âges, passer les défis. C'est une question de choix. Je vous ai dit, le bonheur est le vrai bonheur. Ce n'est pas, on se crée son bonheur. On ne regarde pas aux autres leur bonheur pour faire de ça un standard. Tu vas souffrir. Crée-toi ton bonheur. Ton fils marche comme ça, c'est ton fils. Aime-le et avec sa façon d'être là, crée ton bonheur. Mais ne regarde pas au pied de l'autre fils qui est droit et puis regarde-le au pied de ton fils et être malheureux. Tu vas souffrir toute ta vie. Le bonheur est relatif. L'aide n'est pas toujours mettre sur le voisin. Ce que Dieu t'a donné là, comme ça avec amour, travaille dessus. Aide ça à devenir parfait et à devenir meilleur. Aime ta femme, aime ton mari, aime ton conjoint. De tout ton cœur, de tout ton être. Les histoires de mes frères, ma famille d'abord. Ta famille. Vous êtes tonton, tantie, tous ces gens-là. C'est à cause de ton argent, ils sont là. On n'a jamais vu des couples qui deviennent des frères et sœurs. Parce que même des enfants, à un moment, ils vont vous laisser. Vous allez devenir deux. À un moment, vous êtes plein de la maison. Quand un grandit, il va à Paris pour les études. L'autre grandit, New York pour les études. Quand ils reviennent, ils veulent habiter à la maison. Maintenant, vous cherchez un petit-fils. Il n'y a pas un petit-fils là. Et le petit-fils aussi, quand il a 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, il quitte. Et puis après, de nouveau, rien à deux. Le vrai objectif du mariage, le vrai, c'est pas forcément pour aller. Lisez-le. Si on allait, on finissait papa. Et les enfants allaient rester là jusqu'à. Mais c'est pas ça l'objectif majeur. On peut vivre heureux, s'épanouir, glorifier Dieu. Mais bien sûr, si tu le désires, Dieu le fera pour toi. C'est tel sa vie. Ce matin, que Dieu te bénisse.
Amen.
Et chers sœurs, s'il te plaît, ne faut pas pallier. Jésus au contrôle.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que je peux sentir les jeunes soeurs ici ce matin?